Radio Kapi. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Arrêtez de tuer vos frères, c'est le message d'interpellation lancé par les évêques catholiques de la Senko hier jeudi à Kinshasa dans un plaidoyer de paix et de compassion avec la population de l'Est. Les évêques recommandent des restructurations profondes pour venir à bout de cette insécurité. Hier, 8 avril 2021, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation Congolaise, a totalisé une année depuis son arrestation et sa détention à la prison centrale de Makala. Dans une déclaration à la presse lors de la célébration de ses un an, ses partisans demandent l'implication personnelle du président de la République pour sa libération. Les questions relatives au coronavirus seront abordées avant la fin de ce journal avec le docteur Amédée Prosper Djoubindé, chargé du bureau de l'OMS, qui est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Arrêtez de tuer vos frères, c'est par cette interpellation que les évêques catholiques recommandent des restructurations profondes partant de la présidence de la République en passant par le gouvernement jusqu'au niveau des forces armées de la RDC en vue de faire face aux problèmes d'insécurité et des massacres dans l'Est du pays. Dans un plaidoyer de paix et de compassion avec la population de l'Est, hier jeudi à Kinshasa, les évêques de la Senko ont dépeint un tableau sombre de la situation d'insécurité dans l'Est, caractérisé entre autres par la porosité de nos frontières, la démotivation des militaires. En voici quelques recommandations lues par le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, qui est au micro de Jeff Ngoy.
Les forces armées de la République se caractérisent dans cette zone par une sédentarisation de certains officiers qui sont restés longtemps dans la région et s'opposent à être déployés ailleurs. La modicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leurs rations, d'où l'amenuisement de leurs motivations. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, l'épuration de la sorte des militaires, la permutation effective des officiers affectés à l'Est. Il s'avère urgent de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'Est du pays.
Des engins et équipements militaires destinés à la force spéciale mise en place au sein de la brigade spéciale d'intervention commencent à arriver depuis mercredi à Beni. Il s'agit d'au moins 25 véhicules militaires qui faciliteront le travail de cette force spéciale qui sera plus réactive et mobile. C'est pour mieux faire face à l'insécurité dans la région et mieux protéger les civils. L'entrée de ces engins à Beni via le poste frontalier de Kassindi a suscité les réactions de certains qui accusent la MONUSCO de transporter des armes et des hommes pour une destination inconnue. Pour plus d'éclaircissements, nous avons ici les explications du commandant adjoint de la brigade spéciale d'intervention, le colonel Duma Emmanuel Katougué. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Tous ces matériels appartiennent aux troupes des forces d'intervention rapide en provenance de la Tanzanie, dont les hommes sont déjà ici à Beni. Ils étaient arrivés par un vol spécial de la Tanzanie pour Goma, puis acheminés ici à Beni. Ce sont des troupes qui sont déployées dans l'objectif de sécuriser les agglomérations et villages et barrer la route aux menaces de ces forces irrégulières qui ne cessent de tracasser la population. Avec ces matériels adaptés au terrain, ces troupes auront la capacité de mobilité rapide pour mouvoir dans les agglomérations afin de sécuriser la population. Ainsi, toutes ces informations sur les médias et les réseaux sociaux ne sont que des propagandes de ceux-là qui tuent la population. Ils le font pour que la population soit en conflit avec l'armée et la MONUSCO pour qu'elle ne soit pas à mesure de bien assurer leur responsabilité de protéger la population. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune arme, aucune machine comme ça se dit dans la population. Tous les engins sont ici dans les camps. Ceux qui sont curieux peuvent venir le voir ici.
12 organisations non gouvernementales des droits de l'homme, parmi lesquelles les COGESKI, Dignité Humaine, les Reprodoc, disent non à la présence et à l'intervention des troupes et forces armées étrangères en RDC et demandent au Parlement, tout à faire cessante, de prendre à bras les corps cette question. dans une déclaration à la presse ce jeudi à Kinshasa. Ces ONG se disent perplexes et dénoncent les traumatismes des dégâts et tueries causés par les armées des pays voisins en RDC, notamment la guerre des six jours à Kisangani en mai 2000, l'entrée au pays de la FDL en 1997, les rébellions du CNDP et du M23. Pour ces 12 ONG, il n'est pas normal de faire appel à un pyromane pour le transformer en sapeur-pompier. Écoutez à ce sujet Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile, un des signataires de cette déclaration. Il est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Face à cette situation, aucun Congolais ne peut s'empêcher de se poser un certain nombre de questions. S'agit-il d'une capitulation de nos forces armées face à sa mission régalienne? Comment peut-on faire appel à un pyromane pour en faire les sapeurs-pompiers, tout en sachant que beaucoup de groupes armés nationaux et étrangers sont soutenus par ceux-là même qu'on veut inviter sur le sol congolais? Ce comportement frise la haute trahison. Plus que jamais, la question sécuritaire et de la paix dans notre pays demeura une préoccupation urgente, et fort de ce qui précède, nous invitons le président de la République de se mettre à l'écoute de la population qui ne veut pas entendre ni de la présence des forces étrangères sur notre territoire, moins encore de leurs opérations conjointes avec le FARDC. Le Parlement tout à fait se sente de prendre à bras le corps la question de l'intervention des troupes et armées étrangères en RDC. À la population congolaise de se mobiliser afin de dénoncer toute manœuvre qui mettrait la sécurité nationale en danger.
Au sud Kivu, Bijombo et Mikenge sont deux localités des hauts plateaux d'Uvira et de Mwenga qui hébergent des sites et des déplacés ayant fui les hostilités entre groupes armés dans leur village. Le site de Mikenge rassemble en majorité des membres de la communauté Banyamulenge, tandis que celui de Bijombo héberge les membres des communautés Banyindou et Bafuliru. Même si depuis 2 ans, les actions des humanitaires sont en mal dans la zone, ces déplacés internes se disent rassurés de la protection dont ils bénéficient de la présence de la mission des Nations Unies dans la région. Fiston Ngoma Mayabala.
La MONUSCO offre un périmètre de sécurité pouvant permettre aux déplacés internes de Mikenge et de Bijombo de paître leur bétail, de couper les bois d'échauffe et de travailler les champs. Conjointement avec les FARDC, le casque bleu escorte et s'est déplacé jusqu'à 2 km de périmètre autour de leur site. À ce système, s'ajoute un mécanisme d'alerte mis en place dans les sites et qui permet les interventions de l'armée et de la force onusienne en cas d'attaque de groupes armés. Plusieurs écoliers parmi les enfants des déplacés ont repris le chemin de l'école. Chombe Kagujo, directeur de l'école primaire 2 de Bijombo Ishenge. Nous sommes deux écoles ici, Odari et Bijombo 2 que je dirige. J'ai 350 écoliers pour les 6 classes du primaire. Nous nous contentons de la prime de l'État. La protection est assurée par la MONUSCO. N'eût été elle et les FARDC, on ne poursuivrait pas ces activités scolaires. Quelques ONG humanitaires, dont Médecins du Monde, assistent gratuitement les déplacés en soins médicaux grâce à la présence des forces onusiennes et des FARDC dans la zone. Par ailleurs, la famine reste un grand défi dans les sites d'hébergement où 5 personnes sont mortes à la suite du manque de la nourriture, à Bijombo notamment. Suite à cette situation, beaucoup parmi ces déplacés regagnent leur village d'origine. Pareil à Mikenge. D'Ouvira Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Par sa résolution du 1856 et du 22 décembre 2008, le Conseil de sécurité a chargé le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du mandat, entre autres, d'aider à promouvoir et à défendre les droits de l'homme en RDC, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. De cette manière, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme contribue aussi à la réalisation de la protection des populations civiles en République démocratique du Congo, l'une des principales missions de la MONUSCO. Honoré Missenga Kalala.
L'approche utilisée par le Bureau conjoint dans l'accomplissement de ce mandat consiste à rapporter au quotidien les violations des droits de l'homme, assister les victimes de ces violations et faire les plaidoyers auprès des acteurs étatiques et autres pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. Ce travail se concrétise notamment par la production et la publication des rapports, l'interpellation des acteurs concernés par les droits de l'homme, ainsi que la sensibilisation aux violences sexuelles et la formation. En plus des bureaux de terrain et des groupes de travail, le BCNDUH compte 5 principales unités en son sein, l'unité justice et lutte contre l'impunité, l'unité formation et renforcement institutionnel et information, l'unité des rapports et enquêtes, l'unité de planification stratégique et de soutien au projet, ainsi que l'unité de protection. Cette dernière assure la protection des victimes, des témoins, des défenseurs des droits de l'homme, ainsi ainsi que des journalistes sous menace imminente. La dimension droit de l'homme fait donc partie intégrante de la protection des civils, dont les femmes, les enfants et d'autres personnes vulnérables.
Un an que Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation Congolaise, a été arrêté et transféré à la prison centrale de Makala, CPRK. Ses partisans réunis au sein de la plateforme Soutenons Vital Kamerhe et les autres caméristes ont commémoré hier jeudi, 8 avril 2021 à Kinshasa, ce qu'ils ont convenu de qualifier des journées nationales des innocents victimes des injustices judiciaires. Dans une déclaration à la presse, le coordonnateur national de la plateforme SVK demande pour la énième fois au président de la République de s'impliquer personnellement pour que son allié et ancien directeur des cabinets recouvre ses droits et libertés. Les propos de Kaus Matata Kaussi ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Certains spécialistes du droit pénal ont qualifié le jugement inique qui a condamné l'innocent Vital Kamerhe en date du 20 juin 2020 de graves erreurs judiciaires de l'histoire de la RDC et de plus regrettablement jugé des annales judiciaires. Le procès de l'innocent Vital Kamerhe a été totalement politique et politisé en ce sens que les jets d'accusation entre l'UDPS et l'FCC sur la responsabilité de la paternité de l'incarcération injuste de l'innocent Vital Kamerhe a prouvé à la face du monde les complots fomentés entre ces deux formations politiques contre lui. La confirmation par le gouvernement congolais de l'existence de toutes les maisons préfabriquées après avoir été sommé par le gouvernement angolais et tanzanien sur l'abandon de ces maisons sur leur sol, créant ainsi un encombrement inutile. Ainsi, la SVK demande pour la unième fois au président de la République et magistrat suprême qui désormais détient à 100% le contrôle du pouvoir après les déboulements du FCC de s'impliquer personnellement pour que son allié recouvre ses droits et libertés, car une année d'injustice suffit pour un innocent.
L'adoption par l'Assemblée nationale de la loi relative aux droits des peuples autochtones pygmées et la reconnaissance de l'identité des pygmées comme autochtones en RDC, à l'instar des autres groupes autochtones, c'est ce qu'a déclaré la dynamique des groupes de peuples autochtones des GPA. Patrick Essaïdi s'exprimait ainsi lors d'une conférence de presse conjointement tenue par sa structure et l'ONG internationale Rainforest Foundation Norway, hier jeudi 8 avril ici à Kinshasa. Patrick Essaïdi le dit à Paul Matendo.
Premièrement, c'est la reconnaissance de l'identité des pygmées comme étant des autochtones de notre pays, à l'instar des autres groupes autochtones, effectivement. C'est la reconnaissance de la richesse culturelle qui renferme les connaissances, les pratiques des peuples autochtones pygmées et le fait que l'État congolais veut les valoriser dans toutes les questions liées à la gestion des ressources naturelles, mais aussi dans toutes les questions liées à la résolution des divers conflits fonciers qu'on rencontre dans notre pays. C'est aussi le fait que l'État congolais veut renforcer la participation citoyenne à en intégrer effectivement le peuple autochtone pygmée dans les différents services des institutions du pays, au niveau local jusqu'au niveau national. Il y a aussi les aspects sur la discrimination, la marginalisation, comment arriver à atténuer ces genres d'aspects en renforçant la cohabitation pacifique, l'accès à la justice, aux services sociaux des bases.
Plusieurs coins de la ville de Lubumbashi sont dans le noir depuis plus d'une semaine. C'est à la suite des vols de câbles haute tension perpétrés par des inconnus qui continuent à courir les rues. La Société nationale d'électricité plaide pour que son patrimoine soit sécurisé afin que les vols, la répétition des câbles qui constituent un frein pour le développement de cette entreprise de l'État prennent fin. Jean Andou pour les détails.
Le vol des câbles est intervenu sur la route des poids lourds à Lubumbashi. Les inciviques ont commencé par faire tomber 6 pylônes avant d'emporter plus de 400 mètres de câbles électriques haute tension en cuivre. Conséquence, de nombreux quartiers de la ville sont plongés dans le noir. C'est notamment Gambela 1, Gambela 2, une partie du centre-ville et même les cités universitaires. La SNEL est à pied d'œuvre, indique son directeur provincial Fundi Issa. Elle a fait recours aux techniciens de l'ICASI qui sont venus appuyer ceux de Lubumbashi. 6 autres pylônes déjà montés sont sur place. 2 d'entre eux sont relevés. Les bases des 3 autres sont prêtes pour les accueillir. Les conducteurs en cuivre, qui sont le plus prisés par les voleurs, sont remplacés par ceux en aluminium. En attendant la fin des travaux, dont le coût sont estimés à plus de 140 000 dollars américains, Fundi Issa plaide pour l'implication de tous dans la sécurisation du patrimoine de la SNEL, ciblé ces derniers temps par les inciviques dont certains sont toujours en cavale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un témoignage très attendu ce jeudi 8 avril au procès du bombardement de Bouaké, dans lequel 9 militaires français avaient été tués le 6 novembre 2004. Le ministre togolais de l'Intérieur de l'époque, François Bocco, entendu par visioconférence, a détaillé comment, alors qu'il avait mis les auteurs présumés du raid à disposition des autorités françaises le 16 novembre, celles-ci ont refusé de s'en saisir. Une action très dommageable pour l'enquête, puisqu'il est désormais établi que les pilotes présumés accusés dans ces procès, Youri Souchkine, faisait bien partie du groupe.
L'invité.
La communauté internationale célèbre le 7 avril de chaque année la Journée mondiale de la santé. 2021 n'a pas fait exception et en marge de cette commémoration, le chargé des bureaux de l'OMS, le docteur Amédée Prosper Dungwinde, était l'invité spécial de la conférence de presse des Nations Unies le mercredi. Radio Capi en a profité pour s'entretenir avec lui d'une manière exclusive, avec les hauts fonctionnaires de l'Agence mondiale sur les questions liées au coronavirus. Suivez plutôt l'entretien du docteur Amédée avec Honoré Missing Kalala.
Docteur Amédée Prosper, bonjour.
Bonjour.
Face au coronavirus, on parle beaucoup du mécanisme COVAX. En quoi consiste-t-il?
Je voudrais rapidement dire que le mécanisme COVAX est une initiative qui a été mise en place au niveau international avec véritablement l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé, qui regroupe un certain nombre d'acteurs bilatéraux et bien sûr d'autres bailleurs de fonds, afin de faire en sorte que la vaccination, qui est une stratégie de lutte efficace face à la pandémie de COVID-19, soit effective dans tous les pays. Et à travers ce mécanisme, c'est de permettre à tous les pays les moins nantis de pouvoir bénéficier du vaccin pour couvrir les populations cibles, afin que nous puissions arrêter la chaîne de transmission.
Oui, alors, docteur, l'objectif était de fournir au moins 2 milliards de doses d'ici la fin de l'année, dont 1,3 milliard de doses à 92 pays et territoires à faible niveau, dont la RDC, bien sûr. Nous avons déjà entamé le deuxième trimestre de l'année. Qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à ces programmes au premier trimestre, particulièrement pour l'Afrique et la RDC?
Je pense que ce qu'il est important de noter, c'est que déjà, jusqu'à la date du 1er avril, sur les objectifs que vous avez annoncés, le mécanisme COVAX avait permis de déployer déjà pratiquement 35 millions de doses à travers le monde. Et pour le nombre de pays qui ont été déjà servis, nous avons compté 78 pays qui ont pu bénéficier, bien sûr, dont la RDC. Il est important de noter que sur la globalité, en tenant compte du nombre de vaccins produits dans le monde, toutes molécules confondues, vous avez à la date du 1er avril plus de 550 millions de doses qui ont été administrées. Malheureusement, pour la région africaine, nous avons seulement que 11 millions qui ont déjà été distribués. Alors que c'est un continent qui regorge quand même de 17% de la population mondiale.
Parlons du vaccin, docteur. Beaucoup de gens à travers le monde, y compris parmi les leaders intellectuels, sont réticents, voire réfractaires à la vaccination anti-COVID-19. Des gouvernements sont hésitants. Ici en RDC, par exemple, la campagne de vaccination qui aurait dû démarrer le 15 mars a été reportée à plus tard. Quelle lecture l'OMS se fait de tout ce contexte?
C'est vrai que c'est un contexte qui interpelle tout le monde. C'est vrai qu'il y a une certaine méfiance au regard, bien sûr, de certaines informations qui ont été rapportées sur des effets secondaires liés notamment à certains types de vaccins, dans certains pays scandinaves notamment, et qui fait que des pays ont dû prendre des mesures conservatoires ou des mesures de précaution pour éviter véritablement qu'il y ait une certaine psychose et une mauvaise adhésion, en tout cas, à ce processus de vaccination. Mais ce que je voudrais dire et rassurer les uns et les autres, c'est que avec toutes les évidences qui ont été produites jusque-là, avec les différents experts qui se sont réunis autour, bien sûr, des préoccupations qui ont été soulevées, il a été retenu et recommandé véritablement que le processus de vaccination puisse se poursuivre, car le bénéfice de la vaccination dépasse largement, je dis bien largement, les effets secondaires qui sont notés. Vous vous souviendrez également que même les vaccins de routine, que ce soit les médicaments que nous prenons, il y a toujours des effets secondaires.
Oui, mais quand il y a des effets secondaires qui entraînent jusqu'à la mort, c'est le cas de AstraZeneca. Zeneca, ça fait quand même problème.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut répertorier le nombre de cas qu'il y a eu. C'est vrai qu'il ne faut jamais minimiser tout ce qui arrive comme effet secondaire. Ça demande beaucoup de travail et d'attention. Et bien sûr qu'il y a des éléments qui n'ont pas été établis clairement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de lien de cause à effet entre véritablement la survenue de ces effets secondaires et vraiment le vaccin qui a été administré. Et le groupe d'experts, comme je l'ai dit, qui se réunit de façon régulière pour le suivi des effets secondaires, notamment ce qu'on appelle les manifestations fausses immunisations. Ce groupe a recommandé toujours de poursuivre, bien sûr, la vaccination au regard des bénéfices que cela procure. Je crois que, véritablement, avec ce que nous avons comme évidence, il y a des raisons donc, que nous soyons sereins et que nous puissions aller dans le bon sens.
Donc, pour l'OMS, dans le cas du Covid-19, on ne peut pas se passer du vaccin.
Disons que la vaccination est une stratégie de riposte. Quand vous avez une épidémie ou une pandémie comme ce que nous sommes en train de vivre, rappelez-vous qu'il y a plusieurs stratégies à développer, il y a plusieurs types d'interventions. Et la vaccination est venue compléter l'arsenal de riposte que nous avons. Et je crois que c'est une évidence qui est montrée et nous avons l'obligation d'utiliser cette arme-là pour pouvoir rompre rapidement la chaîne afin de pouvoir revenir à une situation normale dans ce monde qui a été marqué par beaucoup de turbulences.
Docteur Amé des Prosper, merci.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal coordonné par Noé Laluzitu sous la supervision de Pélé Kipé Lamondo. Merci de votre fidélité.